Les chemins de traverse, il était une fois une fée jaune, l'agence Yann. Une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Nous sommes pour la dernière fois chez GreenTech, transformateur de gentiane qui utilise la racine pour produire des principes actifs pour le domaine de la cosmétique. Bonjour et bienvenue à Saint-Beauzire, dans le Puy-de-Dôme. Nous allons retrouver Victoria Vaganet et Edwige Ranouille qui vont nous confier ce que représente pour l'une et l'autre la gentiane.
La gentiane pour vous, qu'est-ce que ça représente ?
La gentiane, c'est vrai qu'on l'a choisie puisque c'est une plante emblématique de l'Auvergne, notre région.
Victoria Vaganet, du service achat GreenTech.
C'est une plante déjà qui est très belle avec ses fleurs jaunes qui représente, comme je disais, notre Auvergne et assez symbolique. Elle est aussi très dégustée ici pour ses vertus apéritives, donc ceux qui aiment en tout cas l'amertume peuvent l'apprécier. Et donc voilà, c'est une plante qu'on a choisie pour ses vertus plutôt appliquées en cosmétique.
Vous en buvez de la gentiane ?
Non, j'en ai déjà goûté, mais pas régulièrement, j'en bois pas.
Non, mais sans en boire régulièrement, c'est à consommer avec modération. Mais je veux dire, malgré tout, c'est quelque chose que vous...
C'est pas forcément de mon goût,
ouais.
mais c'est intéressant à goûter, au moins une fois.
Et vous l'avez goûté ailleurs qu'en liqueur, je sais pas, dans des glaces ou dans de la bière ou dans d'autres produits ? Autant l'une que l'autre, ça vous est arrivé ?
Oui, alors après, bon, moi, pour ma part, j'aime beaucoup la gentiane.
Ouais, pour vous, la gentiane, oui. Qu'est-ce que ça représente
moi,
déjà
Edwige Ranouille, responsable pharmaconiosie chez GreenTech.
C'est pareil, c'est la plante emblématique de l'Auvergne. Quand on va se balader le week-end, faire des randonnées, hein, c'est quand même une des activités phares dans notre région. On a tous en tête l'image de la fleur jaune qu'on voit dans les pâturages. Voilà, c'est la plante symbolique de chez nous, qui nous fait rêver. Donc on est assez fiers de pouvoir valoriser cette plante à travers ces ingrédients-là. Donc après, en termes gustatifs, effectivement c'est amer, mais on va dire que c'est les premiers millilitres qui sont les plus durs. Après, une fois qu'on a bu 2-3 gorgées, c'est comme si notre palais s'habituait et on sent beaucoup moins l'amertume après. Donc voilà, mais peut-être que c'est un peu à l'image, on se dit, quand ça fait mal, c'est que c'est actif. Bon, c'est un peu pareil. Du coup, c'est très amer, mais c'est actif au niveau digestif. Après, il y a aussi d'autres produits. Il n'y a pas que la liqueur apéritive. Il y a notamment des gelées qu'on peut utiliser dans la cuisine. C'est très, très bon. On peut l'utiliser soit dans des plats plutôt salés ou après dans des plats sucrés. Donc voilà, après il faut trouver les bons producteurs qui font des produits locaux, oui. Transformation.
Et l'amertume ?
L'amertume, elle est liée à une famille de composés particuliers. Ce composé-là, il va être présent plus ou moins à certains moments de la période de récolte. Et la présence va être contrebalancée par d'autres composés plus doux, type les sucres, qui vont adoucir cette saveur-là. Donc plus on va avoir de sucre et plus on va avoir une atténuation en fait de l'amertume. Donc au niveau des décoristes, eux, ils doivent aussi faire ça pour avoir un équilibre subtil et avoir un goût particulier pour leur marque. Oui.
Et les tiges et les fleurs, qu'en est-il de leur utilisation ?
Aujourd'hui, on valorise la racine parce que c'est là où se trouve la plus forte teneur, donc en gentiopicroside, la molécule active qu'on utilise. Cette racine-là, donc, quand on l'a épuisée, ça avait un marc de plante, c'était un coproduit qu'on a valorisé sur un second ingrédient. Malgré tout, il reste un autre type de coproduit, effectivement, c'est la partie aérienne. Aujourd'hui, on ramasse les racines, mais tout ce qui est au-dessus du sol, type la tige, les feuilles, les fleurs, ou graines, fruits, selon la période de récolte. Ça, aujourd'hui, c'est coupé, c'est laissé sur le sol. Ce n'est pas valorisé, ce n'est pas utilisé. Donc, c'est une piste d'exploration sur laquelle nos équipes travaillent. Mais pour l'instant, le travail n'est pas encore abouti. On n'a pas encore d'ingrédients sur cette partie-là. Voilà, donc c'est une piste d'exploration. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, cette partie-là n'est pas utilisée. Même dans des utilisations traditionnelles, on n'utilise pas la partie aérienne. Donc, on a peu de données dessus. Donc là... Effectivement, on a plein de choses à découvrir. Oui.
Oui, parce que quand on lit dans la littérature, dans les livres qu'il y a sur la gentiane, on ne parle que de la racine. Quoi.
Partout, de la racine,
c'est... Il n'y a que là, quoi.
Oui.
Merci bien.
Eh bien, de rien.
Merci à vous.
Un grand merci à Victoria Vaganet et Edwige Ranouille pour cette entrevue et toutes les explications sur leur activité et passion. Nous, nous repartons sans plus tarder pour Picherande, au sud du massif du Sancy, où avant de retrouver Stéphanie Flaot de l'association Gentiana Lutea, nous allons poursuivre notre déambulation dans la fête.
Nous sommes une distillerie, donc les Fils d'Émile Perneau, qui est basée à la Clusey-Mijoux. On distille des spiritueux, donc de l'absinthe, du pontarlier, des eaux de vie comme de la gentiane par exemple, depuis 1890.
La famille Perneau donc.
C'est ça, Perneau avec un T, pas avec un D, pas nous confondre avec Perneau Ricard par exemple.
Donc vous travaillez la gentiane, vous faites des liqueurs, des apéritifs.
Oui, donc on fait des apéritifs et des digestifs. Donc on fait gentiane par macération, donc un apéritif à 16 degrés, qui est assez sucré, et que ça variante avec du vin rouge. Et puis on a aussi de la gentiane distillée, donc fermentée et distillée. Donc ça, c'est plus le produit phare du Haut-Doubs, pour la gentiane en tout cas.
Et dans le Doubs, il y a de la gentiane, donc je suppose. Oui, mais...
oui, donc dans le Doubs, on a quand même pas mal de gentiane. Après, nous, on est plus réglementé qu'ici pour la récolte. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trop en avoir dans le Doubs, même si on en a quand même pas mal. Ouais. Mm. Après, on se fournit du coup dans le Cantal, où là, il y en a... Il y en a pas mal.
Oui, c'est ce que m'ont expliqué certains de vos collègues qui viennent de la Savoie, que oui, c'est réglementé, il faut les arrêter préfectoraux, enfin, c'est pas comme ici. Ouais.
C'est ça, ouais. C'est pas comme ici.
Et vous la travaillez comment, la gentiane? C'est vous qui allez l'arracher? Vous l'achetez à un négociant? Comment vous faites?
Donc nous, non, on l'achète auprès d'un négociant, donc qui vient venir d'ailleurs ici aujourd'hui à la fête. Et donc une fois qu'on a commandé ce qu'on voulait, il nous la livre du coup dans le Doubs. Dans les Hauts-Doubs.
Ils vous livrent de la gentiane fraîche ?
Voilà, la gentiane fraîche. Après, à partir de là, si on la distille, on va la laver, la broyer, la laisser fermenter pendant 7 semaines à peu près. Et ensuite, on va la distiller. Et si c'est l'apéritif, on va la broyer, la laisser en macération. Puis après, filtrer, puis rajouter un sirop de sucre. Puis la finir. Quoi.
Vous êtes de la famille Perneau alors ?
Non.
Non.
non, je suis distillateur qui est arrivé il y a à peu près 2 ans. Voilà.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, la gentiane ?
Bah nous, la gentiane, c'est pas du tout comme ici. Nous, on la connaît plus sur le digestif, donc la gentiane distillée. Donc pour nous, c'est le produit phare pour la digestion après le repas. En général, on prend ça, c'est le top, ça fait digérer, c'est nickel. Ça passe bien quand on aime bien, ouais.
Et pour vous, personnellement, la gentiane, ça représente quelque chose ? Ou bon, c'est parce que vous êtes distillateur, puis que vous... Que ce soit de la gentiane ou de la prune ou de la pomme, c'est pareil, ou il y a quelque chose de plus?
Non, bah après, c'est le goût qui est quand même bien atypique par rapport aux autres eaux de vie. C'est plus fort, c'est un peu plus typé. Donc voilà, c'est quand même aussi, on va dire, un peu de l'enfance où les parents ils sortaient ça à table, ça sentait. Donc on a un peu commencé à ça, puis après, on boit d'autres choses. Hein, mais la gentiane, ça reste quand même un produit, on va dire, d'une autre qualité que d'autres eaux de vie. Ouais. Mm-hmm.
Et Picherande, pour vous, qu'est-ce que ça représente cette fête ? C'est la première fois que vous y venez ou...
C'est la première année qu'on fait. Pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal, ouais. En tout cas, ça a assez renommé pour la fête de la gentiane.
Oui, puis vous êtes quand même à la capitale européenne de la gentiane.
Hein. Oui, en plus, ouais. Donc normalement, ça devrait bien se passer. On n'est pas dépaysés. Il y a des sapins, des vaches, de la gentiane.
Mais merci bien.
Bah, de rien.
Merci.
À partir du moment où vous êtes sous le barnum, là, c'est déjà bien de vous donner quelques informations sur l'association.
Patrick Deschamps, retraité, ancien directeur des achats de Pernod Ricard.
Et donc, c'est une interprofession qui a un dynamisme assez important, puisque l'association regroupe à la fois des arracheurs de gentiane, hein, donc les gens qui partent dans les estives avec leur matériel pour aller arracher les racines.
La fameuse fourche du diable.
Voilà.
Patrick nous fait un petit rappel sur l'association interprofessionnelle Gentiana Lutea avant que nous retrouvions son animatrice, Stéphanie Flaot.
Donc, on regroupe des arracheurs, on regroupe des collecteurs, des négociants, donc des gens qui vont regrouper un peu les racines, etc., piqueront les clients. Ouais. Et puis, on aura aussi des utilisateurs de gentiane qui sont pour l'essentiel des liquoristes, mais on utilise aussi la racine de gentiane pour d'autres applications, la cosmétique par exemple. Et en fait, on est sur une interprofession, on est sur une filière, on va dire. Les gens qui sont au sein de cette association donc, se regroupent pour faire en sorte que l'ensemble de la filière ait une gestion durable.
Justement, revenons sur la gestion durable de la ressource avec Stéphanie Flao, en rappelant tout de même que la racine de gentiane met entre 15 et 20 ans avant d'être apte à l'arrachage.
Si le prélèvement est raisonné, c'est ce qui va assurer le fait que dans 20 ans, il y en aura encore.
Ben, alors, la pérennité, oui.
Voilà. Ce qui est compliqué, c'est que le laps de temps est long. Eh oui. Il y a d'autres plantes où c'est les pratiques de cette année qui auront un impact sur l'année prochaine ou l'année d'après. C'est beaucoup plus resserré dans le temps et plus palpable. Là, c'est peut-être la génération d'après qui en profitera le plus.
Ben, c'est ça. Cet été, on a arraché sur un terrain. Ça faisait 40 ans que ça n'avait pas été arraché. Donc, c'est même pas celui qui arrachait qui était venu arracher là. Enfin, qui est revenu arracher. C'est arriver à se projeter dans l'avenir, se dire, bon, il faut que j'en laisse pour la génération future qui va arriver.
Après, c'est physique quand même comme travail. Oui. Donc, il ne va pas s'échiner à arracher une racine grosse comme une carotte. Logiquement, il va prélever les grosses et laisser les plus petites en plate. Ce qui est bien, c'est de laisser quand même quelques grosses porte-graines pour pouvoir régénérer la plante plus vite. C'est d'autant plus important que la germination, l'implantation des jeunes plantules n'est pas simple avec l'évolution climatique. Donc oui, le fait d'en laisser, c'est important. Mais je dirais que globalement, les arracheurs, une fois formés et une fois informés sur les bonnes pratiques, vont suivre ces bonnes pratiques. Ce qui, des fois, est compliqué, c'est les intérêts qui peuvent être différents entre l'arracheur et le propriétaire. Et au-delà du propriétaire, l'éleveur. Parce que si le propriétaire du terrain, propriétaire de la gentiane, n'est pas l'éleveur, les intérêts, lui, il va peut-être vouloir en laisser un petit peu pour dans 20 ans. Et peut-être que l'éleveur qui a son troupeau qui pâture sur cette prairie-là va dire « Oui, mais moi, cette gentiane, elle m'enquiquine. Je voudrais qu'on enlève tout. » Donc voilà, là, il y a un équilibre à trouver qui est pas évident. Parce que si les arracheurs en laissent trop, ça peut aussi être la porte ouverte à d'autres équipes d'arrachage qui viennent proposer aux propriétaires de réexploiter 5 ans après, par exemple.
Oui, oui.
Parce que soit ils font l'impasse sur le fait que ça a pu être arraché, soit ils n'en ont aucune idée et ils trouvent qu'il y en a déjà pas mal, enfin qu'il y en a beaucoup. Donc faut en arracher suffisamment pour ne pas donner envie à d'autres de la réexploiter tout de suite après. Mais il faut quand même en laisser pour qu'elle se multiplie naturellement. Donc c'est un équilibre.
Un équilibre à trouver, une fois de plus.
Et au niveau de l'association, parmi nos activités, on a aussi ces essais de mise en culture de gentiane, d'une part, et des essais de sursemis de gentiane. C'est-à-dire qu'on va sursemer des graines de gentiane dans une prairie naturelle, pour essayer de donner un petit coup de pouce pour faire germer cette gentiane.
L'aider un peu.
L'aider un petit peu. Et puis, ça nous permet aussi d'acquérir un peu plus de connaissances sur la plante.
La culture, ça, c'est quelque chose qui se développe, qui prend bien. Parce qu'en plus, c'est un sacré investissement sur la culture. Parce que, je veux dire, ça ne fait pas des racines de suite. Donc, déjà, il y a ça.
C'est vrai que la culture de gentiane, c'est long. Ça envisageait peut-être un petit peu comme une exploitation forestière, un peu. La culture de gentiane, elle existe, à ma connaissance en tout cas, depuis les années 70, où Pernod, aujourd'hui c'est Pernod Ricard, pour la fabrication de la Suze, avait besoin de racines de gentiane. Et puis c'était un moment où les projets de réglementation étaient un petit peu menaçants, on va dire. Et donc le groupe a travaillé sur la mise en culture de gentiane pour assurer un petit peu ses approvisionnements en racines de gentiane. D'accord. Et donc ils ont travaillé à l'époque avec l'INRA de Dijon et ils sont arrivés à bien maîtriser cette culture de gentiane.
La culture de la gentiane, nous y reviendrons dès le prochain épisode avec, entre autres, un cultivateur de gentiane. Au revoir et à très bientôt.